Bonjour Eric Dumont, j'ai écouté l'émission sur le Paris colonial et je voulais remercier tout simplement l'équipe de Mermet et puis aussi l'historien Monsieur Blanchard de ce travail à la fois de mémoire et en même temps historique qui je pense est extrêmement important aujourd'hui pour comprendre à la fois les phénomènes du Front National, les violences racistes et encore une fois ce fait français très fort de ne pas comprendre le passé colonial.
C'est Baïja de Pontoise, la région parisienne. J'ai encore écouté avec grand intérêt là-bas si j'y suis d'aujourd'hui, 7 septembre. Merci de me faire découvrir un pan de ma culture puisque je suis d'origine marocaine. De ma culture franco-marocaine. Effectivement, quand j'étais gamine, mes parents nous emmenaient au château de Versailles et jamais ils nous ont emmenés visiter ces pavillons coloniaux du château de Vincennes. Voilà, comme quoi ils essayaient par tous les moyens de nous intégrer dans la société qui est la nôtre aujourd'hui.
I'm George W. Bush, and I approve this message.
Vous avez entendu ? Il approuve. Oui, il nous l'a dit, c'est un message de George W. Bush qui approuve les messages qu'on a entendus et ça, sous ma voix, c'est la musique qui accompagne l'un des innombrables spots publicitaires qui est diffusé actuellement à travers les États-Unis d'Amérique pour donner le goût à nos congénères humains et américains de voter pour Dubia. Alors nous, pendant ce temps-là, on va continuer à nous promener dans le Paris arabe avec Pascal Blanchard, et Guy Vanctil. On va continuer de se balader et puis on va regarder cet immense panneau qui est actuellement au milieu de New York, dans Manhattan, Cost of Iraq War, le coût de la guerre d'Irak depuis le début. Je rappelle que c'est une association qui s'appelle Project Billboard et qui, au millième de seconde près, indique en temps réel le coût de cette guerre depuis son commencement. On en est actuellement, je le vois sous mes yeux, 137 milliards, 0,18 millions, 634, 5, 6, 7, 8 000 dollars. Voilà, on est autour de un petit peu moins d'un milliard de dollars par jour. Et hier, je vous ai dit, mais voilà, à quoi ça correspond? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tout cet argent? Et ben voilà, c'est un petit jeu assez stupide, mais quand même intéressant, auquel vous avez répondu. Donc, d'autres messages, les vôtres, sur le répondeur de la base, si j'y suis, 0156 40 37 37, et ensuite, on continue la balade dans le Paris arabe.
Salut Daniel, j'adore ton petit jeu du coup de la guerre en Irak. Alors je voulais t'indiquer que par exemple la satisfaction des besoins nutritionnels et sanitaires qui permettraient d'éradiquer la faim dans le monde pour un an, c'est 3 milliards de dollars par an. Voilà. Là tu t'as dit 1000 milliards je crois. Bon ben voilà, on va jouer à ça parce que c'est vraiment bien ce jeu. Hein.
136 milliards de dollars, ça correspond à 100 millions de mètres carrés de logements pour un prix à 1360 euros du mètre carré, ce qui correspond à 2 millions d'appartements de 50 mètres carrés. Yannick de Bruxelles, au revoir.
Bonjour Eric Dumont, j'ai écouté l'émission sur le Paris colonial et je voulais remercier tout simplement l'équipe de Mermet et puis aussi l'historien Monsieur Blanchard de ce travail à la fois de mémoire et en même temps historique qui je pense est extrêmement important aujourd'hui pour comprendre à la fois les phénomènes du Front National, les violences racistes et encore une fois ce fait français très fort de ne pas comprendre le passé colonial.
136 milliards de dollars, ça correspond à 100 millions de mètres carrés de logements pour un prix à 1360 euros du mètre carré, ce qui correspond à 2 millions d'appartements de 50 mètres carrés. Yannick de Bruxelles, au revoir.
Bonjour Eric Dumont, j'ai écouté l'émission sur le Paris colonial Et je voulais remercier tout simplement l'équipe de Mermet et puis aussi l'historien.
Voilà, vous avez remarqué peut-être, vous avez cru qu'on était sur France Info, parce qu'on répète, on répète. Mais on a un petit problème, je vois les camarades qui sont penchés sur les écrans, et vous avez compris que nos petits messages se sont mis en boucle dans nos nouveaux studios, dans notre nouvel immeuble de l'avenue du Général Mangin, tout est neuf, et on s'en mêle un petit peu les crayons. Et alors donc, Antoine va me dire si on écoute vos messages ou si on... Oui, oui, c'est bon, voilà vos messages.
Raoul de Paris, donc je pense qu'avec tous ces milliards que tu viens de nous dire qu'a coûté la guerre, on pourrait acheter un cerveau au peuple américain. Peut-être que ça nous donnerait un président de l'Empire plus intelligent que ce truc qu'on a maintenant et qu'on appelle... comment on appelle déjà... Bush. Au revoir.
Alors, je pose deux, je retiens un. Donc, avec 136 847 000 et quelques d'euros, si j'ai bien calculé, on peut faire exactement 34 211 saisons de Star Academy. Donc, 34 211 nouvelles stars, c'est super. Mais ce qui fait vachement plaisir, c'est qu'avec 136 milliards d'euros, on pourra jamais faire un Mozart ni un Bob Marley. Salut Daniel.
Je réagis aux 136 milliards et quelques dépensés pour la guerre d'Irak. Alors, bon, soit, il est évident que ce qu'on pourrait faire, c'est certainement sauver des gens qui sont dans des situations très difficiles, que ce soit surtout dans les pays sous-développés. Mais moi, je suis en train de chercher de l'argent, pour l'instant, pour essayer de rénover une vieille église qui est de l'an 1000. On n'arrive pas à trouver 40 000 euros pour essayer de retaper cette chapelle. Et voilà, je n'aurai que 40 000 euros sur les 136 milliards de dollars. Eh bien, ça m'arrangerait beaucoup. Merci, à bientôt, au revoir.
Que pourrions-nous faire avec 136 milliards de dollars? Eh bien, racheter au moins TF1 et faire du vrai journalisme. Nous aurions donc là-bas si j'étais en prime time sur TF1.
Avec une partie des fonds que l'on a dépensés dans cette guerre, on aurait pu financer la recherche médicale pour que des gens qui se trouvent cloués dans leurs chaises gardent l'espoir. L'espoir qu'un jour ils se lèveront libres et sans compter le temps. Descendront au parc plein de la fraîcheur des mille roses, de belles allées où courent les enfants dont les cris se perdent en haut des grands arbres et qui s'arrêtent parfois pour parler à un chien.
Michel de Seine-et-Marne. Alors, monsieur Mermet, c'est une très bonne idée, ce jeu-là. Ça fait rêver de dépenser l'argent des autres. Bon, enfin, je vous laisse la comptabilité des États-Unis parce que je suis un peu en dette avec eux et que si t'avais pas débarqué, bah, je serais pas en Europe, je serais banné. Par contre, je peux vous proposer un petit jeu, un petit exercice de calcul mental. Par exemple, soit les milliards de l'Arabie et des Émirats réunis, combien de gosses pourrions-nous sauver avec au Darfour? Ou bien, soit les milliards du pétrole algérien, à combien de jeunes on pourrait procurer du travail avec? Ou bien, soit l'argent dépensé par Madame Arafat rue du Faubourg Saint-Honoré, combien d'écoles on pourrait construire avec? Vous voyez, ça commence à devenir gênant. C'est toujours comme ça quand on commence à parler d'argent. Étonnant, non?
C'est Valérie des Tôles. Ben, moi, je voulais juste, je sais pas, je me demandais avec tout cet argent, peut-être je pourrais me faire faire une piscine ou refaire faire l'enduit de ma maison, hein. Non, en fait, je me demande si c'est la bonne question, c'est pour savoir combien ça coûte, savoir combien ça rapporte, surtout. Parce qu'à mon avis, ils ont beau être un peu cons au gouvernement américain, ils font pas les choses à perte, quoi qu'il arrive. Voilà, à bientôt.
C'est Sylvain de Puteaux. Alors, 136 841 968 000 dollars, en euros ça fait 113 milliards et je vous passe les décimales, à 2 euros la crêpe au Nutella, ça fait 56 milliards de crêpes. Pour 6 milliards de personnes, ça fait 9,45 crêpes par personne. Oups, il faut que je rachète des œufs.
I'm George W. Bush, and I approve this message.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Pascal Blanchard et Guy Vanctil. Ben, si j'y suis, le Paris arabe.
Flight number 2, arriving from New York.
Quand vous entendez la sirène du bateau résonner, toutes les familles, même s'ils n'ont pas un de leurs enfants qui prenait le bateau qui partait, vous les voyez les larmes aux yeux qui perdent parce que ils savent qu'ils vont partir vers un autre destin, vous savez. Alors on m'avait préparé des petites boulettes chez nous, vous savez, les Nord-Africains préparent toujours des petites boulettes de viande et qu'on met dans l'huile d'olive avec des olives dans une petite boîte. Et j'avais un chapeau rouge, vous savez, chez Chéa. Et quand le bateau a quitté le port et s'est éloigné un peu, j'ai jeté mon chapeau parce que je me suis dit je ne reviendrai plus en Tunisie. Je le pensais, c'est vrai. Et disons que je suis arrivé le lendemain matin à Marseille. Et j'avais une valise et je suis allé à la gare Saint-Charles et j'avais homme. J'ai omis de vous dire quand j'arrivais très tôt le matin vers Marseille, c'était le sombre, c'était l'humidité, très tôt, vous savez, vers 4 heures, et j'avais le reste des petites boulettes comme ça, et je les ai jetées aux poissons parce que je me disais que je vais arriver en France, ça va être formidable. Sincèrement, au début, quand j'ai travaillé sur chaîne à la régie Renault, je n'aimais pas Renault. Je savais que j'avais besoin d'elle. Ce n'est que quelques années plus tard, quand j'ai eu la chance de prendre des cours du soir et d'évoluer et de me faire une meilleure situation, que je suis tombé amoureux de Renault. Et je crois qu'elle aussi, elle est tombée amoureuse de moi parce qu'elle me le rendait bien. Moi, je voulais devenir français et même m'insérer dans la société, vous savez, m'insérer dans la société française parce que j'étais amoureux de la langue de la littérature française. Je me suis dit, maintenant voilà, puisque je parle français. Et je me suis aperçu que le plus que je vais essayer d'apprendre la langue française, le plus je vais essayer d'évoluer dans la langue française, mais ça ne veut pas dire que je suis resté toujours à Mohamed.
Entre les vertus républicaines et l'entreprise coloniale, Paris arabe. Paris arabe parce que depuis deux siècles, Paris est une capitale arabe. Oui, un carrefour des cultures, des musiques d'Orient, du Maghreb et première ville d'immigration des populations venues d'Afrique du Nord. Paris est aussi un espace privilégié pour les opposants, pour les diplomates et pour les tractations secrètes. Paris est depuis toujours au cœur d'une relation paradoxale de la France avec le monde arabo-musulman. Et c'est une mémoire oubliée, et c'est une mémoire occultée, inaudible, une mémoire et une histoire qui dérange et qui cherche sa place parmi d'autres mémoires dans notre mémoire collective. Voilà, le Paris arabe. Hier, avec Guy Vanquille et Pascal Blanchard, on a découvert dans les friches vers le bois de Vincennes à Paris, ce qui pouvait rester comme trace de ce Paris arabe dans le mémoire des expositions coloniales. Et puis, évidemment, on s'est retrouvé ensuite à la mosquée de Paris, où on est allé prendre un thé à la menthe pour évoquer cette histoire à la fois d'une ville qui a représenté, qui continue de représenter pour le monde arabe, la ville des droits de l'homme, des libertés, etc., mais aussi la capitale de l'ancien empire colonial. Quand on dit arabe, mosquée, musulman, il faut évidemment rappeler que tous les arabes ne sont pas musulmans et qu'en revanche, beaucoup de musulmans ne sont pas arabes. Cette confusion en elle-même dit assez les contradictions et l'ignorance dans laquelle nous continuons d'être en dépit de ce long séjour commun à l'intérieur de notre capitale française. Paris arabe, c'est jusqu'à 18h, c'est là-bas si j'y suis, c'est France Inter.
Depuis toujours, la France est une terre d'accueil. Face à la puissance de l'ennemi, le réservoir humain des colonies sera même sollicité. Et ce sont 600 000 coloniaux de l'Empire que l'on fait venir au secours d'une patrie dont ils ne sont que sujets et non citoyens. Je déchirerai le rire banania de tous les murs de France.
La France, c'est dans le monde le pays des droits de l'homme.
Il semble bien qu'à travers toute l'Algérie, on évolue, lever le bas. Il faut que les populations comprennent qu'elles doivent nous aider, ou bien qu'elles s'exposent par la force des choses et malgré notre volonté à souffrir davantage.
Vive la France ! Vive l'Algérie française !
L'extrême droite prépare un putsch en liaison avec des éléments de l'armée.
Le 17 octobre 1961, les Algériens de Paris manifestent contre le couvre-feu qui vient de leur être imposé.
Mais la répression policière a été d'une telle brutalité que l'opinion publique s'émeut. Des témoins rapportent aux journaux des scènes de lynchage, de noyades.
Dans la cour même de la préfecture de police, des dizaines de manifestants sont tabassés avec sauvagerie.
200 Algériens au moins ont été tués cette nuit-là.
La vie continue.
On a grosso modo un flux de population qui fait qu'on doit avoir en Ile-de-France, en fonction des années bien sûr de l'entre-deux-guerres, entre 50 000 et 100 000 nord-africains et orientaux à peu près dans Paris. Domine largement les Kabyles, l'Algérie. D'ailleurs, on peut même beaucoup plus l'appeler un Paris Kabyle dans son regard qu'un Paris arabe, d'une certaine manière. Le flux de population, quand même, est assez rapide. C'est-à-dire que la plupart de ces travailleurs qui s'installent viennent 2-3 ans dans Paris.
C'est et des hommes célibataires, enfin des hommes seuls.
Essentiellement, il y a moins de 1% de femmes. La grande différence, d'ailleurs, avec l'immigration chinoise ou indo-chinoise, c'est essentiellement une immigration masculine
donc
de travailleurs.
Des bras qui sont pas faits pour s'installer ici.
Non, et alors, bien sûr, qu'il faut bien voir, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas que des travailleurs pour les usines. Mais sur certains, il y a l'image emblématique qu'on connaît tous, Renault, les usines automobiles. Mais vous avez des gens qui travaillent dans tous les domaines de l'industrie, mais on est dans le petit commerce, par exemple. Déjà, il y a une cinquantaine de bistrots arabes ou de restaurants arabes dans Paris. Il y a aussi plein de petits commerces. C'est-à-dire que ce qu'on a oublié aujourd'hui, c'est qu'il y a des colporteurs maghrébins dans Paris, qui est un vieux métier parisien, des petits vendeurs de rue par exemple. Vous avez aussi comme ça un certain nombre de maillages dans la ville, d'intellectuels aussi qui sont présents, aussi bien d'ailleurs syriens, libanais, qu'algériens, marocains, tunisiens. Ce que je veux dire, c'est que Paris est vraiment une capitale du monde arabe. C'est-à-dire voilà. Qu'à ce moment-là, on envoie les élites du monde arabe étudier à Paris, parce que le voyage initiatique de Paris, les études à Paris, et même, je dirais, le bain qu'on rencontre à Paris est un bain de mélange et de rencontres qu'on ne peut pas trouver ailleurs. L'ensemble de l'élite algérienne de l'époque, qu'il soit d'ailleurs d'origine plutôt nationaliste, plutôt socialisante, voire même monarchiste, voire tout simplement au niveau des oulémas, vous les croisez tous dans Paris. Vous avez également dans des ligues d'extrême droite des militants indochinois ou maghrébins. L'histoire, par exemple, d'Abrahmen Al-Mahdi, qui terminera sous drapeau allemand, mais également proche de la milice, qui sera numéro 3 du PPF de Doriot, ce qui n'est pas rien. Ben, par exemple, le 12 février, ou le 6 février, j'ai un trou de mémoire, en février 34, dans les grandes manifestations des ligues dans Paris devant le Parlement, le premier mort est un maghrébin, d'Action française. C'est-à-dire qu'il faisait partie de la vie politique de la cité.
Voilà.
Ils étaient des militants de la ville, ils étaient acteurs de cette histoire, mais vous avez aussi des grands noms qui sont partis avec les brigades internationales. Et vous avez, pendant les années 24, le Parti communiste présente des maghrébins aux élections municipales dans Paris. Alors, ce qu'il faut voir, justement, c'est qu'il y avait, si vous préférez, une vie quelque part plus normale qu'au Maghreb. Pourquoi ? Parce qu'à la fois, si Paris est une capitale coloniale, Paris est aussi la ville des libertés. C'est-à-dire qu'à Paris, on pouvait s'exprimer politiquement. Même s'il y avait cette pression des organismes de contrôle et autres, il y avait quand même une plus grande liberté qu'à Alger, Casa ou Tunis.
Alors, le 11 septembre 2001 a lâché les chiens du racisme anti-arabe et de l'islamophobie, mais ce rejet a une histoire. Si on écoute Pascal Blanchard, qui avec toute une équipe a construit ce livre, parce qu'il y a un tel boulot d'iconographie et d'histoire et de précision historique et de petites
histoires aussi, évidemment. C'est pas seulement un boulot d'historien froid, etc. C'est une promenade qu'on peut faire dans le livre avant de la faire à travers Paris. Eh bien, cette islamophobie qui sévit actuellement a une histoire, et cette histoire est visible encore à certains endroits dans Paris.
Autant avant il y avait le banania, le bamboula et tout ça, la stigmatisation du maghrébin, le rejet de plus en plus important s'enracine dans ces années-là.
Oui, on peut presque le suivre au jour le jour. C'est-à-dire que vous avez cette progression des années 20 à 26 où va commencer à se fixer ce discours sur les phrases dans le roman noir à l'époque, ce n'est plus le boulmiche et le bougnoulmiche. C'est de voir le double jeu de mots de cette invasion qu'il y a, ou ces textes sur qui tue, c'est le Sidi qui tue avec son couteau qui nous attend à l'angle de la rue. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà, vous commencez à avoir les thèses de Moko sur les indésirables en France, vous commencez à avoir des bouquins qui sont sur 3 millions d'étrangers en France, sur les métèques, tous ces mots sont les vocabulaires de l'époque. Ce que vous retrouvez dans Je suis partout, dans l'Action française, dans Gringoire, dans Candide, dans L'ami du peuple de Coty, où on nous raconte que Paris est envahi par des hordes de peuples de couleur qui vont venir violer nos femmes en peau de léopard, qui étrangleront nos enfants, qui viendraient envahir Paris, comme on disait à l'époque. Et donc tout ça monte progressivement dans toutes ces années 20, en toile de fond d'une inquiétude post-première guerre mondiale, d'une société qui s'enfonce aussi progressivement dans une crise qui va arriver à la fin des années 20. Et donc tout ça est assez prégnant, et il faut le mesurer, c'est que vont se construire à ce moment-là tous les stéréotypes d'exclusion, parce que plus de maghrébins, par exemple, arrivent en France, plus la construction d'un rejet de cette population migrante sur le sol métropolitain va commencer à prendre forme. Donc vous avez tout ce contexte de pression, et qui va pratiquement trouver son apogée à la fin des années 20, au moment où justement on glorifie dans Paris avec une humiliation ultime, totale, le centenaire de la conquête de l'Algérie en 1930. C'est l'une des plus grandes humiliations qu'on ait pu faire à l'Algérie. C'est-à-dire qu'on n'a pas simplement commémoré la présence de la France, on a commémoré une défaite, on a commémoré une humiliation, et on le fait avec faste. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut imaginer ce contexte. D'un côté, vous avez cette pression dans la ville, ce rejet xénophobe. De l'autre côté, vous avez cette humiliation totale qu'est 1930, qu'est la commémoration du centenaire de l'Algérie. Et vous aviez ici la grande mosquée, vous avez tous les bistrots arabes en Paris. Donc il faut quand même imaginer que dans cette ville, en permanence, vous avez ce rythme entre regard sur l'autre et ouverture à l'autre, et en même temps oppression coloniale, et en permanence on lui renvoie à cette image d'homme humilié, d'homme dominé. Et ça, c'est ce contexte qui fait qu'en 1930, quasi l'image du maghrébin non intégrable, indésirable, rejeté et quasi fixé. Et en même temps, je le dis bien, c'est tout le paradoxe de Paris, c'est la ville de la liberté, c'est bien plus humiliant à Alger. Voilà. Essayons d'imaginer un peu cette contradiction formelle que symbolise Paris à ce moment-là. C'est sous ça. Et je pense que l'emblème de la Grande Mosquée, pour ça, est assez, assez emblématique. C'est qu'on est à la fois dans un lieu aujourd'hui magique, regardez, on est à l'intérieur de ces jardins, on est dans un bout quelque part du Maghreb, d'Afrique du Nord ou de l'Orient. Donc en même temps, cette ville peut construire ce lieu, et en même temps, cette ville peut penser le rapport à l'autre d'une manière aussi excluante, autant inscrite dans le rejet. Et c'est tout ce paradoxe-là qui fait notre relation extrêmement ambiguë encore aujourd'hui aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants, issus de cette histoire. الهول ماليش مسطولة بقلو داعي تصدد واستيلو ما زالي بول داري جاب لي ربي ما عندك ما تقول شعب المنا قدينو واش هالقوم هذا.
Est-ce qu'il y a eu comme justement une évolution du regard porté sur les maghrébins au cours du siècle dernier?
Oui, il y a une évolution, certes, à partir du moment où, avec le conflit d'indépendance, la chose va se crisper, c'est-à-dire qu'on va passer du Sidi au Felaga, pour simplifier. Il était déjà porteur de couteau et après il sait s'en servir, en gros. Mais, en fin de compte, il y a à la fois une évolution et pas tant que ça. Ce qui va être le grand, grand choc, c'est la post-guerre d'Algérie. C'est là où je dirais que souvent, beaucoup se sont concentrés sur l'analyse de ce qu'a été l'Algérie comme choc du rejet des Maghrébins en France, alors que je pense que l'intégralité, je dis bien, l'intégralité des stigmates, des rejets, existe déjà avant. Et il suffit de travailler vraiment à la loupe ces époques, les années 20, 30, 40, pour comprendre que tout est déjà mis en place. C'est-à-dire que ce n'est pas la guerre d'Algérie, mais que la partie visible d'un iceberg déjà très présent jusqu'à maintenant. Je rappelle juste pour souvenir que dès 53, la guerre d'Algérie n'a pas démarré, on tue déjà dans Paris, dans une manifestation des Algériens. La police tire.
À Nation.
Et c'est un 1er mai. Donc ce que je veux dire par là, c'est que il faut arriver à comprendre que pour moi, je pense que le vrai basculement, ça a été les années 70, quand il y a eu le regroupement familial. Quand là, on a pris conscience, d'abord avec l'arrivée des femmes et des enfants, qu'ils allaient à la fois pas simplement être de passage, que le fait qu'on les remettait permanence à la mer, dans l'imaginaire collectif, là, ils s'installaient définitivement. Et là, c'est le moment où on va commencer à entendre parler de, par exemple, de grève ethnique ou de grève religieuse, où on va commencer à entendre parler pratiquement d'insurrection dans les usines. Avant de parler des banlieues, on ne parlait pas encore des banlieues dans les années 70, puisque c'était plutôt en bidonville. Et il va y avoir, à un moment, ce basculement qui là va être très différent, je pense. Pour moi, le grand changement, il est assez progressif jusqu'aux années 70 avec la guerre d'Algérie. Et il y a ce grand changement à partir du moment où là, il y a une véritable, et c'est la montée du Front National qui va le cristalliser le mieux, prise de conscience que les enfants s'installent et que les familles s'installent, et donc ils vont rester. Donc c'est l'installation de l'islam définitive. Donc c'est plus que le pittoresque d'une grande mosquée. C'est des grandes mosquées. C'est des mosquées.
C'est la deuxième religion de France.
Voilà, c'est l'installation d'enfants à l'école avec les enfants. C'est l'installation, la présence des femmes. C'est l'installation d'un certain nombre de phénomènes qui vont faire passer dans une autre dimension ce qui était au départ de l'ordre d'un rejet qui trouvait un aboutissement avec, je dirais, la non-intégration ou la présence courte dans le pays. D'un seul coup, on passe à une autre dynamique. Et puis on n'est plus dans le champ du colonial. Et là, je dirais que si je devais essayer de cristalliser, vous voyez, il y a un long processus dans le siècle, ouais, dont pour moi, la pire de basculement n'est pas tant la guerre d'Algérie, même si c'est un grand traumatisme français. Je veux dire, je sais pas ça que je suis en train de dire, mais je parle dans cette relation à l'autre qu'on a eue. Je pense que les années 70, milieu des années 70, avec les regroupements familiales, ont été une date beaucoup plus charnière dans un changement d'image. Jusqu'alors, on est passé d'un Orient qui fascinait au 19e siècle vers un rejet progressif, ce que j'ai appelé le Sidi, dont le point d'orgue sont ces années 20, qui après va se stabiliser en, sur un rejet relativement long sur ce discours sur les indésirables jusqu'aux années 70, pour après prendre presque une, non pas une plus grande prégnance, mais une autre forme qu'on a très bien connue avec le Front National sur aujourd'hui, ce que l'on peut caractériser d'une manière très claire et très nette quand on parle du problème immigration, les maghrébins essentiellement, un peu de plus en plus pendant les Africains d'Afrique noire, et clairement quand on parle de problème de religion, c'est l'islam auquel on fait référence, et quand on parle d'un problème d'intégration, essentiellement on pense, parce que ça renvoie à des images très fortes comme la marche des beurs en 83 par exemple sur Paris, encore sur Paris, tenez, quand un événement parisien, il faut monter à Paris pour exister quand on est beurre. Si on n'est pas dans les rues de Paris à défiler, on n'existe pas. Qui montent à peu près leur parcours dans le siècle.
Bonsoir. Il y avait donc du monde cet après-midi entre la Bastille et Montparnasse à Paris pour accompagner les marcheurs contre le racisme. 80 000 personnes sans doute, ce qui constitue un beau succès. Philippe Chaffrangeon, vous avez suivi ce défilé.
Sur l'esplanade devant la gare Montparnasse, un podium et la foule qui vient d'arriver, très nombreuse, probablement 80 000 personnes. Une grande affiche et une inscription, nous sommes tous du gibier. Des photos de jeunes immigrés morts, victimes du racisme et des gerbes de fleurs. Sur le podium, les marcheurs qui racontent leur périple, qui témoignent, qui lisent des poèmes applaudis par la foule. Et puis Georgina Dufoy, le secrétaire d'État à la famille et aux immigrés, qui lit un message de François Mitterrand. Je m'adresse au pays interpellé par votre marche. Il faut lutter contre le racisme, il ne suffit pas de le dénoncer. Le gouvernement a reçu des instructions de fermeté en matière de racisme, poursuit Georgina Dufoy, et d'annoncer que Robert Badinter va proposer un texte selon lequel les violences à caractère raciste seront désormais considérées comme des infractions pénales spécifiques. De ce fait, les organisations antiracistes pourront se porter partie civile. Applaudissements, les quelques cris qui réclament aussi le droit de vote pour les immigrés. Doucement, la foule se disloque. C'est à 14h que le cortège immense a quitté la place de la Bastille. En tête, les marcheurs et un symbole. Deux baskets géantes blanches aux lacets verts. Beaucoup de monde, des hommes politiques, des syndicalistes, trois ministres et une figure très applaudie, le chanteur Enrico Macias.
Racisme et instrumentalisation du racisme, ça aussi c'est une histoire constante et c'est intéressant évidemment d'essayer d'être dans le temps long, celui de l'histoire et non pas dans le temps de l'événement qui est celui des médias. Ça nous permet quand même de mettre un certain nombre de choses en perspective dans cette relation passionnelle de rejet, d'amitié, de liens, d'accueil aussi, hein, d'asile. Faut quand même pas oublier ça non plus, parce que nous sommes, on peut pas trop s'en vouloir non plus. Et c'est ce que Blanchard, Pascal Blanchard dit d'une manière très éloquente, c'est ce paradoxe français vis-à-vis du monde arabe. On est dans ce Paris arabe et on continue.
Jour de liesse pour les musulmans. C'est aujourd'hui en effet l'Aït el-Kébir, une des plus grandes fêtes musulmanes. Cette fête commémore le sacrifice d'Abraham et c'est en ce jour que les fidèles se rendent à la Mecque, toutes les fois qu'ils le peuvent d'ailleurs. C'est un des 5 commandements du Coran d'avoir à se rendre à la Mecque quand on en a la possibilité. À Paris, cependant, la colonie musulmane, qui comprend non seulement les fidèles de l'Afrique du Nord, mais ceux d'Éthiopie, de Syrie, du Liban et tous ceux qui pratiquent la religion musulmane, ces fidèles de Paris se sont rendus, eux, à la mosquée de Paris pour la prière rituelle de l'Aïd. Et nous les entendons sortant des salles de prière et psalmodiant des chants rituels dans la cour de la mosquée de Paris.
Muhammad Rasulullah.
les institutions ici, à la mosquée de Paris, pendant l'occupation.
La grande mosquée, à l'époque, était au carrefour de ses communautés, de ses contradictions. C'est-à-dire qu'elle était à la fois un lieu de résistance, mais aussi un lieu de collaboration. Elle n'y pouvait rien, parce que la communauté... Nous on perd que la France prend une telle humiliation 40 que les peuples colonisés se disent « cette puissance tutélaire coloniale s'est effondrée ». Et donc, vous aviez toutes les contradictions de la société française, par exemple. Bah, c'était toutes les contradictions de la société maghrébine de Paris qui se retrouvaient, qui se croisaient, qui s'opposaient, voire même qui pouvaient avoir un effet de solidarité communautaire à l'intérieur de la Grande Mosquée. D'ailleurs, il y a une histoire, une très belle histoire à raconter à l'intérieur de cette Grande Mosquée, pour comprendre de 40 à 44 ce qu'ont été les questionnements et autres, puisque n'oublions pas que ce que va être les premiers lendemains de la Seconde Guerre mondiale, c'est comme les massacres de ces types de Guelma
en
Algérie en 45. Au moment où 8 mai 45, on fête la libération et la fin de la guerre, je rappelle qu'on massacre en Algérie et des massacres qu'on n'avait pas connus pratiquement depuis le début du siècle. Bon, aujourd'hui, les chiffres sont extrêmement délicats, mais on peut tabler autour de plus de 10 000 morts, peut-être même beaucoup plus.
La France a été déchirée par une douleur profonde. En apprenant que le jour même où le peuple s'abandonnait librement à la joie de la victoire, est criminel. Abusant de la crédulité et de la misère du menu peuple arabo-berbère, avait déclenché une sorte de jacquerie.
Jean Amrouche.
Le sang français.
18 mai 1945, radio colonial.
Certains agitateurs musulmans, inspirés ou non par des agents étrangers, ont cru le moment venu de faire peser sur le gouvernement de la France un ignoble chantage. Profitant de l'affreuse disette qui règne en Algérie, ils se proposaient d'obtenir par la menace, par la provocation et par la violence, une sorte d'abdication de la souveraineté française. Toutes les organisations démocratiques d'Algérie, suivies en cela par l'immense majorité des Français musulmans, ont condamné ces agissements criminels.
Comme Madagascar deux ans plus tard en 47. Je veux dire, c'est qu'on rentre dans une phase de répression qui est une phase, en gros, c'est les 15 années qui vont précéder les indépendances. N'oublions pas que si le 8 mai 45 on massacre à Sétif, le 2 septembre 45, Ho Chi Minh annonce la naissance de la République du Vietnam. Donc on est quand même dans ce contexte-là. Les années d'effondrement de la France coloniale, c'est d'un seul coup l'enchaînement vers les indépendances.
C'est extraordinaire l'amnésie, hein, en écoutant Blanchard, en se baladant dans cette ville avec cette idée d'y trouver les traces du monde arabe et musulman. On oublie les chansons. On a fait une série d'émissions, vous vous souvenez, l'année dernière, sur la chanson coloniale. Il y a eu des milliers de chansons pour évoquer les colonies. Et entre 1910 et 1960, il y a eu 500 films de fiction qui prenaient les colonies pour sujet. La Bandera, Pepe le Moko sont les plus célèbres, mais il y en a eu énormément. Et on a eu une agence de propagande. Et ce que disent Blanchard et ses collègues historiens, c'est que si on fait de la propagande, c'est que tout le monde n'est pas convaincu. Donc il y a eu de manière constante dans la colonisation une critique de la colonisation qui peu à peu, minoritaire, archi-minoritaire, peu à peu, a pris toute la place jusqu'à inverser totalement ce qui semblait au 19e siècle, au début du 19e siècle, comme après 1870, une valeur suprême et une valeur républicaine. Et évidemment que le monde arabe est lié à cette histoire de la colonisation et que Paris, eh bien, est lié à cette histoire-là.
Alors nous voilà toujours dans la mosquée de Paris. Cette fois-ci posé avec l'été à la menthe dans ce petit décor qui fait vraiment carte postale, mi-Club Med, mi-exposition coloniale.
Un pur produit des années 20, où c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. D'ailleurs, c'est intéressant de se rendre compte que ce lieu a donc vu et a traversé quasi aujourd'hui, 8 décennies d'histoire d'une présence maghrébine à Paris, en restant l'épicentre encore aujourd'hui de l'image la plus visible. C'est-à-dire, quand vous demandez aux gens c'est quoi pour vous le monument qui symbolise le mieux la présence arabe ou maghrébine en Paris, donc c'est la grande mosquée qui va sortir. Donc c'est encore moins, on l'a vu dernièrement avec l'organisation des musulmans de France. Je veux dire, la réaction de toujours revenir à la grande mosquée pour trouver un interlocuteur. Comme si on avait du mal, par exemple, à parler aux jeunes générations. Comme s'il fallait toujours ramener, et de plus en plus d'ailleurs, d'une certaine manière, la présence et la représentativité des maghrébins de France à une présence religieuse. Donc c'est extrêmement intéressant de voir comment tout le débat depuis 4-5 ans s'est enchevêtré et où la grande mosquée a encore eu ce rôle central. Et puis, parce qu'on ne sait pas penser autrement notre relation à l'autre. C'est exactement pareil en termes d'urbanisme ou autre. On pense aujourd'hui les banlieues en termes d'urbanisme. On a pensé les banlieues, on continue à penser les populations des banlieues. Exactement comme on pensait l'espace colonial.
sont des espaces de conquête, des espaces à pacifier, des espaces de conflit, des espaces où il faut envoyer l'acteur social. Hier, on envoyait le missionnaire. Des espaces où...
Non, c'est les CRS.
Voilà. En fait, on se rend compte que l'ensemble des mécanismes qui fonctionnaient à l'époque coloniale fonctionnaient dans les banlieues comme si on n'avait pas encore décolonisé notre modèle.
Là, les images de ce qu'on a dit, le terme de zone de non-droit.
Exactement. Et je pense que ceci renvoie à des sortes de micro-colonies qui seraient venues cette fois-ci s'installer en métropole. Bah, cette pratique-là, elle a du mal à changer. Elle a du mal à changer parce que, indirectement, cette relation s'est aussi tissée dans un mode comportemental et dans un mode de relation à l'autre qui est totalement induit sur un réflexe colonial.
Tiens, l'autre jour, j'étais de faction à une intersection affectée à la surveillance des usagers. En clair, je bulais un carrefour. Il arrive un mec qui tournait autour de moi avec un papelard, on aurait dit qu'il cherchait une rue ou quelque chose. Il n'osait pas s'adresser à moi, on aurait dit qu'il avait peur. Vous voyez, genre un type louche, un peu basané, vous voyez. Parce que nous, on nous apprend à reconnaître les mecs louches. Hein. Attention. Celui-là, si vous voulez, n'était pas franchement louche, mais était franchement basané. Hein. Alors, je disais rien, il s'approche, il tourne, et puis alors je sentais qu'il n'osait pas. Vous voyez, il venait, mais il y venait tout doucement, vous voyez, c'était le genre de mec... patibulaire, tu vois, mais presque. Hein? Finalement, il s'amène et puis il me dit « Pardon, monsieur, excusez-moi, s'il vous plaît, vous m'indiquez à que celui-là qu'il est le commissariat de police plus proche, s'il vous plaît, excusez-moi, parce que j'ai à part de mon papier d'identité. Je vois dans l'affaire une déclaration, s'il vous plaît, excusez-moi. Je me suis dit, toi, mon petit gars, t'as pas à concentrer là. J'ai dit, ouais, vous avez au papier. Il les avait pas, ils ont seul emmené au commissariat.
Je crois que l'un des meilleurs exemples qu'on peut illustrer, là, si on revient sur Paris et le cas qu'on connaît, c'est que dès qu'il va y avoir un mouvement revendicatif, dès qu'il va y avoir une volonté des maghrébins de France, par exemple, de sortir du cercle dans lequel ils sont, c'est-à-dire mis en marginalité dans les villes, par exemple avec les bidonvilles de Nanterre, ou vivant dans des gourbis ou dans des petits hôtels, et quand ils vont revendiquer, notamment à partir des années 50, puisque là, leur présence devient en nombre relativement abondante, l'immigration entre 45 et 53 se chiffre en centaines de milliers de migrants et de travailleurs qui sont appelés pour les Trente Glorieuses, pour l'effort de reconstruction du pays.
On a besoin de bras
et on va les chercher en Afrique du Nord à ce moment-là. La guerre d'Algérie n'a pas démarré. On ne peut plus fonctionner avec deux systèmes, avec deux citoyennetés à deux vitesses. Ça n'est plus possible. Le système est en train de se fissurer totalement. Et la guerre d'Algérie va être l'expression la plus visible de ça dans Paris. Parce que n'oublions pas, d'abord, le conflit avec MENA et FLN dans Paris qui a été quand même meurtrier.
Parce qu'il y a eu la guerre entre les différents mouvements indépendantistes.
Paris a été un des lieux de ce conflit, mais là aussi, ça chiffre en centaines de morts. C'est vraiment une guerre qui va monter crescendo. D'une certaine manière, Paris va vivre au rythme de cette guerre d'Algérie, de cette pression. Puis après, ce sera les attentats de l'OAS, que tout le monde connaît. Vraiment, cette petite fille défigurée, on a remis. Ça a vraiment été un choc dans la ville. Où cette guerre va devenir bruyante. Les manifestations vont s'entendre dans Paris. Petit à petit, la violence coloniale, moment, va éclater dans Paris. Je dirais que ce qu'il faut bien comprendre, c'est pour ces millions de Français qui étaient à 2000 km de l'Algérie. Bien sûr, le père, l'oncle, le frère, le voisin y était. Donc on en entendait parler de cette guerre. Vous savez comme moi la grande difficulté de ceux qui ont fait l'Algérie d'en parler, à l'époque comme par la suite. Donc d'une certaine manière, la manière à laquelle les Français ont perçu cette histoire, ils l'ont perçu dans leur rue, dans leur quartier, en voyant monter cette violence coloniale. Et à un moment, ils l'ont vu exploser. Et l'année 61, c'est ni plus ni moins que l'explosion de ce qui était là-bas une pratique normale dans la capitale de France. Et là, d'un seul coup, pendant quelques jours, plusieurs mois, puisqu'on sait que les événements du 7 octobre ont commencé un peu avant, vont se prolonger dans les mois qui suivent, il va y avoir sous Papon d'abord une interdiction de circulation dans la ville des Maghrébins, puis de plus en plus une pression sur Nanterre comme sur les quartiers où ils vivaient, pour se terminer par un bain de sang, où de cette manière on va lâcher la violence coloniale dans la ville.
هاجوا علي تفكير من بعد ما كنت ناسيني رحلوا علي دواوير ورحلوا علي الحباب وصبت روحي وحدي براسي رحلوا روى عليا دواوير وراح روى عليا الحباب وصمت روحي وحدي براسي.
Papon traverse cette histoire de Vichy à l'Algérie en passant par les rues de Paris. Il aura quasi d'une certaine manière une formation accélérée pour cette pratique à la fois coloniale et cette pratique d'une certaine manière d'oppression sur l'autre. Et quand il arrive à la tête de la police parisienne, il redynamise même des structures qui étaient presque un tout petit peu tombées en désuétude dans les années 20. C'est-à-dire qu'il va relancer une brigade spécialisée qu'on va appeler la BAV, la brigade anti-violence, qui est spécifiquement destinée aux maghrébins, je tiens à le dire, elle n'avait pas d'autre fonction. Les fichiers vont être mis en place, le contrôle total des populations, c'est-à-dire qu'il va créer un état de guerre colonial à l'intérieur de la capitale.
Et qui aboutit, entre autres, à ce couvre-feu.
Exactement.
Qui est quelque chose d'assez imaginable avec un tout petit peu de recul, c'est-à-dire sous De Gaulle, le grand libérateur de la France. Exactement. Voilà qu'on impose un couvre-feu racial.
Exactement. Pour une population très spécifique. Véritablement raciale, parce que le couvre-feu était souvent, il faut bien l'imaginer à l'époque, on imagine bien que la police française ne faisait pas forcément la différence entre le travailleur marocain, tunisien et algérien. Donc oui, c'est classique, c'était un couvre-feu d'élite sale gueule, et qui rendait la situation impossible d'ailleurs pour ceux qui travaillaient dans Paris. Donc on se retrouve avec une pression telle, je dis que les événements du 7 octobre ne sont que la partie visible, mais ce qu'il faut bien arriver à comprendre, c'est qu'on pourrait cumuler à travers toute cette histoire dans le siècle des petits 17 octobre. Il y a comme une culture de la violence qui s'est installée et qui va exploser à ce moment-là.
Et avec ces 200 morts balancés...
200 à 300, puisqu'on considère aujourd'hui qu'entre ceux aussi qui ont eu en banlieue parisienne, en périphérie, dans les commissariats, les jours qui ont précédé autres, aujourd'hui, les travaux du Nodi montrent qu'on est entre 200 et 300, oui, tout à fait, oui. Ce qui est, je trouve, extrêmement important à mesurer aujourd'hui pour nos auditeurs, c'est d'arriver à comprendre que tout ça se passe en plein Paris. Je veux dire que jusqu'alors, l'histoire coloniale se passait loin, et qu'on avait plutôt les rêves et les fantasmes coloniaux. Les reconstitutions, les rêves d'ailleurs, les bistrots orientaux. Alors que là, on se retrouve confronté au colonialisme le plus froid, le plus direct, en fait, je vais dire froidement, le plus naturel. Ça fait partie du Paris arabe, parce que ça reste une trace indélébile, qui des fois d'ailleurs un peu trop voilée toute l'histoire qui l'a précédée. C'est assez incroyable de se rendre compte comment il y a se concentrer sur cette ville, sur ces drames. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, la mémoire collective a plus retenu le 7 octobre que le 1945, d'une certaine manière. Ce qui montre le côté symbolique de Paris, de ce crime dans Paris, c'est que ça a été jusqu'à faire couler le sang dans la Seine.
Et jusqu'à ce graffiti qui était dans... C'était dans les jours ou dans les semaines après le
lendemain.
Dès le lendemain.
Dès le lendemain, des jeunes intellectuels viennent taguer. Ici, on a tué les Algériens.
Sur le pont Saint-Michel, juste en face de l'avenue Saint-Michel et en face du palais de justice.
C'est une photo qu'on a retrouvée, qui est dans le livre, et qui est, je trouve, qui est assez éclairante parce qu'elle elle constitue à elle-même une sorte de lieu de mémoire photographique sur un lieu où des millions de gens passent tous les jours, des touristes notamment. Et on a du mal à imaginer qu'à cet endroit-là, justement, cette histoire coloniale, d'un seul coup, a totalement éclaté. Et que le miroir, justement, où la ville du Paris arabe a totalement basculé dans le sang pendant ces journées sombres et noires d'octobre 61.
Ben, j'ajoute une dernière nouvelle concernant aussi l'Algérie. Là, à Nanterre, une opération de police s'est déroulée cette nuit et 650 musulmans ont été interpellés. 17 suspects ont été appréhendés et conduits au poste pour examen de leur situation.
Douce France, pas trop ce jour-là en tout cas, pas trop ce 17 octobre 61, pas toujours douce et tendre avec les immigrés arabes s'installant dans cette ville, s'installant en France. Et c'est l'installation, c'est ça la grande affaire, c'est ça le grand virage, c'est ça les années 70, c'est le regroupement familial. Et là, effectivement, ce que disait à l'instant Pascal Blanchard, c'est le moment où tout bascule, c'est le moment où le regard change. La décolonisation, c'est pas nécessairement synonyme de décolonisation des esprits, des mentalités, des cœurs colonisés par par la haine pour des raisons multiples. Il n'y a pas une haine raciale ontologique, disons. Ou si elle est ontologique, on sait à quel point elle est attisée par certaines circonstances et puis par certaines manipulations. Paris arabe.
Jusqu'à maintenant, ne pas voir le travailleur arabe, c'était possible. Mais pas voir les enfants qui arrivent à l'école et les mères qui font les cours, c'est plus possible. C'est une autre visibilité qui commence. C'est-à-dire qu'on rentre dans une autre logique. Et là, je dirais que le choc des images est important. Et ce qu'on n'a pas assez mesuré, c'est que je pense que ce basculement qui se passe à partir des années 70-75, en gros, et qui vont amener jusqu'aux années Mitterrand, et je crois que, pour bien comprendre cette période, c'est 74-83. C'est-à-dire de l'émergence de l'arrivée des familles jusqu'à la marche des beurs. Les enfants de cette immigration qui, pour la première fois, de Marseille à Paris, revendique, avec une phrase qui est simple, nous existons. Ce qui montre bien qu'ils n'existaient pas avant. Voilà. S'ils ont besoin de marcher dans la rue, de faire cette marche, d'arriver dans Paris, on est en 83, je veux dire, c'est le début des années Mitterrand. Et je dirais que c'est le début du débat qu'on a commencé à entendre sur l'intégration.
Et c'est là où c'est des moments aussi où on invente ce mot pour plus dire arabe, mais quelque chose entre les deux, entre arabe et français, c'est beurre.
Chaque génération a inventé son mot. Il y avait pendant la guerre d'Algérie les Français musulmans en Algérie, avant il y avait les Sidis, avant il y avait les Orientaux, avant il y avait les Nordaf. Chaque génération a inventé son mot. C'est comme pour les Noirs ou comme pour les Asiatiques. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette notion des peurs, qui aurait dû induire notamment une arrivée maintenant à une place pleine et entière dans la République.
Oui,
c'est
ça fait quand même 20 ans, quoi, depuis 20 ans qu'on parle de l'intégration des peurs.
Et si on réfléchit bien, ça fait en réalité un siècle qu'on parle toujours, mais par tranche de 20 ans, de l'intégration d'une époque. C'est-à-dire que les beurs avant eux, on a connu, puis avant eux, on a aussi connu. C'est-à-dire que c'est en permanence une intégration qui doit repartir à zéro, comme si chaque nouvelle génération n'était pas héritière de ce qu'ont fait ses pères et ses mères. Ce qui est un cas extrêmement particulier en France. Là, sur les Maghrébins, mais c'est valable aussi, je pense, à un moindre niveau, pour d'autres raisons, notamment de nombre et de religion, pour les Africains ou pour le Sud-Est asiatique. Et encore, le Sud-Est asiatique bénéficie du traumatisme de la guerre du Vietnam, américaine, celle-là, qui nous a un peu dédouanés de cette problématique, en sachant qu'ils étaient victimes quand ils arrivaient, alors que les Maghrébins, on ne les perçoit pas comme victimes, mais bien plus comme des profiteurs. Et donc, héritiers de tout le côté négatif, plus des profiteurs d'un système alors qu'ils ont gagné la guerre. Donc il y a tout ce côté négatif qui va ressortir, qui va émerger, et en plus revendicatif. C'est-à-dire que comme on les a totalement fixés dans le champ du revendicatif, quelque part, on reprend l'image que le colonial envoie de vous. C'est pas un hasard si Senghor disait « Je déchirais le rire bananier sur les murs de France ». On sait que les images, les stéréotypes construits sont les plus durs à déconstruire. Et l'image du perpétuel maghrébin revendicatif est une image qui perdure depuis 20 ans. Il revendique des places au secteur, il revendique des places, enfin, il milite, ils font des grèves. Donc à chaque fois, on va regarder que cette vision négative, comme si faire la grève n'était pas plutôt un acte d'intégration. Ça se bat pour son outil de travail ici. Ou la place des jeunes beurs qui revendiquent leur place dans la République pour la construire à nos côtés. Je veux dire qu'il y a toute cette dialectique-là qui montre bien cette immense difficulté à hériter de cette mémoire. Et en plus, je dis bien une jeune génération qui, pour la plupart, ne connaît pas cette histoire.
مانيش مسطولة بقلو داعي تصدد وستيلو ما زالي بول جاري جاب لي ربي ما عندك ما تقول شعب اليوم راك دينو واش هالقوم هذا
Beaucoup d'enfants ici de la deuxième et troisième génération avaient une longue histoire dans ce pays. Ce n'est pas une histoire récente qui fait qu'on a une légitimité du temps quelque part. Déjà quand on rappelle un jeune gamin que son arrière-arrière-arrière, grand-père indirectement, ou les aînés, ont construit le métro parisien, c'est pas rien. Il y prend tous les jours ce métro. Quand on dit qu'il y avait un dieu du Stade en 24, El Wafi, c'est pas rien. Quand on dit qu'il y avait dans Paris des gars qui venaient, des ambassadeurs, des hommes de lettres, que la première presse arabe était déjà là dès le 19e, ce n'est pas rien. Ça veut dire qu'il n'est pas qu'illégitime ici. Et ce regard que lui renvoie en permanence aujourd'hui, le présent sur son illégitimité presque de sang de ses pères, de ses arrière-grands-parents ici, elle est illégitime parce que tout le monde oublie de regarder cette mémoire pour arriver simplement à légitimer notre présence ici. Et c'est tout, je pense, une des grandes raisons du mal-être de la dernière génération, c'est de manquer de racines. Et c'est cela des deux côtés, c'est-à-dire qu'on se rend compte aussi qu'aujourd'hui, il y a une méconnaissance totale ou simplement une vision extrêmement misérabiliste et haute de l'histoire de l'immigration, notamment maghrébine ou africaine en France, parce qu'on l'a aussi montré comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un rapport à la militance où il a fallu les prendre comme des victimes. Voilà. Comme si on ne pouvait, qu'on est ex-indigène, qu'être une victime de l'histoire. Pareil arabe, oui, il y a des moments sombres, mais vous vous rendez compte qu'il y a des danseuses du ventre, de la musique, du rail, de la fête, du petit business, de la presse, de l'édition, des artistes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, il faut faire extrêmement attention aux contre-images qu'on pense fabriquer, où on pense partir dans le bon sens, mais en fait, on continue à fabriquer des victimes de l'histoire. Et l'histoire du Paris arabe, c'est pas l'histoire des victimes de l'histoire. Ils en ont pris, oui, par moments plein la gueule, soyons très réalistes en prenant les mots, mais en même temps, ils ont construit leur place au soleil. Et ils l'ont largement mérité.
Il y a peut-être dans cette dernière génération, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que si on devait faire un dernier chapitre, c'est-à-dire aller 2005-2030, on ne traiterait pas de Paris. C'est dans la banlieue que se passe aujourd'hui la vie. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le Paris arabe a peut-être disparu d'une certaine manière. Qu'est-ce qui reste du Paris arabe? C'est peut-être ces gamins qui viennent zoner sur les Halles ou sur les Champs-Élysées le week-end parce qu'il n'y a pas d'autre endroit.
Et parce que c'est le croisement de RER.
Exactement. Donc, ils sont un peu hors la ville et que d'une certaine manière, la culture arabe est en train de quitter cette ville qui a été véritablement, pendant plus d'un siècle, un pôle de référence, à la fois aussi un pôle de combat, mais un pôle de créativité culturelle. Et le choc de tout ça, je pense, notamment pour cette jeune génération qui arrive, c'est d'arriver à se trouver une place sans être envoyé en permanence, non pas à ce que l'on fait, mais à qui l'on est. Et donc, indirectement, ils ne connaissent pas leur histoire et pourtant ils en portent le poids en permanence. Qui est, je vous dis, le Paris arabe n'appartient pas plus aux Maghrébins de France, aux Orientaux qu'aux Parisiens. Il appartient à tout le monde. Le Paris arabe, c'est pas un Paris des Arabes. C'est un Paris arabe, comme il y a un Paris noir, comme il y a un Paris Asie. Ce sont des entités qui forment un tout en Paris. Et à un moment, il faut bien s'arrêter dessus pour aller à comprendre ce qui fait la trame d'une histoire, mais en même temps, tout ça est intimement lié. Et ce que je veux dire, c'est que ça forme Paris. Sinon, cette ville, ça passe qu'elle est.
Merci à tous, merci à Pascal Blanchard. Je rappelle le titre du bouquin, Le Paris arabe, aux éditions de la Découverte, Paris arabe, deux siècles de présence des Orientaux et des Maghrébins. C'était un reportage de Guy Vanctil. Merci à Yamina Benguigui pour son documentaire Mémoire d'immigrés, exposition au Parc de la Villette, musulmans, musulmanes au Caire, à Téhéran, Istanbul, Paris et Dakar jusqu'au 14 novembre 2004. Plus d'informations sont à votre disposition sur le site de la Bastille J'y suis en allant sur franceinter.com. L'équipe de la Bastille J'y suis, c'est Yann Chouquet, Pascal E, Pascariello et Christophe Imbert pour le répondeur, dont le numéro est le 01 56 40 37 37. Michel Thomas et Benjamin Lagatine étaient à la technique aujourd'hui et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale, réclame.
Vive la France.